Le retour.
And I don't like it at all, okay?
De Radio X.
Avec DH.
Okay?
Jordan et Mel Trudel.
I don't like it at all.
Radio X.
On est déjà prêt à aller en onde, c'est le fun. Je sens que les auditeurs sont très présents sur le texto.
Oui.
Puis au téléphone aussi, là, parce que ça appelle, puis on n'a rien, on n'a pas posé de questions que ça appelle. C'est bon signe.
Oui, d'habitude, oui, ça.
De la belle visite en studio. Monsieur Nicolas et Monsieur Maxime de Éradique Extermination. Salut, les gars.
Salut, Danny.
Salut, Danny, comment ça va?
Moi, je suis curieux dans la vie, là. C'était pas le même nom, là. Il s'est passé de quoi, là? C'est...
Oui, en fait, on est de plus en plus...
C'est positif!
Oui, c'est très positif. On a élargi nos horizons. On est rendu qu'on fait beaucoup de Montréal. Fait qu'on a décidé d'aller chercher un nom qui est moins régional. Fait que de là vient Éradique Extermination, là, pour pouvoir en faire à travers la province au complet.
Oui, parce que j'ai juste d'imaginer, tu sais, une compagnie de Montréal qui s'appelle Montréal dans le nom de compagnie à Québec, ça passerait peut-être moins bien.
Tandis peut-être un petit peu moins d'appel, effectivement.
C'est ça. On va sortir des... On a choisi beaucoup des ponts à Montréal puis des ponts ici, mais là, on va revenir à nos bébites.
Yes!
Là, ça arrive avec la fonte des neiges. Là, il va faire du 3, 4, 5 degrés. À partir de quand, là? Exemple, je sais que c'est... Je me souviens, j'ai une bonne mémoire, les fameuses fourmis charpentières qui avaient pris pays chez Jordan. C'était-tu l'an passé, Jordan, ou le 2 ans?
Moi, c'était des fourmis de sable.
De mémoire, c'était des fourmis de
sable. Mes parents avaient vécu l'affaire avec les charpentières, le genre 10 ans, ils avaient pris le contrôle du garde-manger, mais moi, c'était plus... ils se faisaient une genre de trans-canadienne entre mon salon puis ma cuisine. Toujours la même trail, puis ils ressortaient, puis tu vois, là, ils sont partis.
De mémoire, ils passaient par ta porte patio dans ce coin-là.
Exact. Hein, on a fait le traitement, puis après ça, bonsoir, elles sont parties, comme disait M. Brulotte.
Il y en a combien d'espèces de fourmis comme ça, les gars?
Il y a plusieurs espèces de fourmis. Mondialement, il y en a des centaines, voire des milliers. Au Québec, principalement, là, on a la fourmi de pavé, fourmi de sable, la fourmi charpentière, qui a plusieurs types de fourmis charpentières, dont la garde-bois, qui est un petit peu plus rougeâtre. Fait qu'on a différents types de fourmis charpentières. On a la fourmi pharaon. On a la fourmi odorante, qui est plutôt rare, mais qu'on a quand même fait certains cas. Mais principalement, c'est eux, là. Le
pharaon, ça mange quoi en hiver?
Ouais, c'est ça.
Ils vivent dans une pyramide? Ou...
Non, en fait, c'est une fourmi qui ne s'attaque pas du tout à la charpente, contrairement à la fourmi charpentière. Fait que ça va être vraiment une fourmi qui est assez difficile à se débarrasser. C'est une toute petite fourmi. Comment qu'on la reconnaît? Elle est beaucoup plus, là, je dirais, beaucoup plus brunâtre. Puis, qu'est-ce que ça mange? Ça va manger tout ce qui est un peu sucré, vraiment comme la fourmi de sable, en fait. Toutes les petites nourritures qu'ils vont trouver à terre, là, comment dire?
Mais c'est-tu des petits résidus sucrés, c'est ça? Mais c'est-tu des fourmis qui sont que à l'extérieur ou ils peuvent venir en dedans?
Oui, c'est des fourmis qu'on va voir à l'intérieur aussi, la fourmi pharaon.
OK. Tu me dis qu'une fourmi qui est à 10 pieds de ta maison t'échappe quelque chose de sucré sur le plancher, elle va aller le trouver, c'est ça?
100%.
Okay. C'était intelligent pareil, les fourmis.
La fourmi pharaon, la petite particularité, c'est que quand on essaie de les exterminer, quand ils se sentent attaqués, ils vont diviser leur colonie.
Hein?
Fait que la reine va donner comme ordre de vraiment diviser la colonie en plein de colonies. Fait que là, ça peut foutre le bordel. Fait que faut faire attention quand on extermine ça, d'avoir les bonnes méthodes, là, de marcher avec les bons produits.
Quand vous faites dire que c'est des pharaons confirmés, c'est plus compliqué pour vous autres de votre bord ou c'est ça se fait
ouais,
bien?
Ouais, c'est pas le même produit, c'est quoi?
Ben, ça va être de marcher plus à l'appât qu'au produit répulsif qui est fonctionnel contre des fourmis de sable, si on veut. Fait que quand on tombe dans la fourmi pharaon, là, idéalement, ça va être de marcher à l'appât pour pas qu'ils se sentent attaqués, pour pas qu'elles puissent détecter que c'est ce produit-là qui a tué, en fait. Là. C'est un processus qui est un petit peu plus long là, pour exterminer la fourmi en soi.
Hey, les auditeurs, en passant, si vous avez des questions, 418-670-9098, puis déjà, il en rentre, mais on ne l'a même pas suggéré. 418-670-9098. J'aime toujours inviter Nicolas et Maxime parce qu'ils répondent aussi aux questions. Mais ça peut être ça, ça peut être des petits rongeurs, peu importe, là, posez vos questions. Go. Pourquoi c'est pas le même produit pour toutes les fourmis? Qu'est-ce que la pharaon a de spécial comparativement, mettons, à la charpentière?
Bien, en fait, au Canada, il y a la ARLA qui va réglementer les pesticides. Fait que probablement que certains pesticides vont fonctionner sur certaines espèces, mais on doit utiliser des produits qui sont homologués. Fait que pour la fourmi pharaon en soi, il y a un seul produit qui est homologué pour pouvoir l'exterminer.
OK, t'as un peu là. Tu me dis que c'est le même produit pourrait les éradiquer. Mais il y a des produits que tu ne peux pas utiliser avec certaines fourmis.
Exactement.
Oh boy, OK.
C'est les lois.
Mais y a-tu plus d'ouverture là-dessus depuis, mettons, 15-20 ans? Voyez-vous une progression? On déborde un peu ou on est quand même assez strict quand tu compares ça aux États, mettons?
Je dirais qu'on s'en va vers l'autre bord. On est de plus en plus fermé.
Quelle surprise!
C'est de plus en plus restrictif, en fait.
Ah, ouais. Pour le droit des fourmis.
Mais en fait, on va devoir de plus en plus faire affaire avec des compagnies spécialisées comme vous autres parce que si on n'a plus le droit, si on n'a plus de produits disponibles, exemple, un quincaillerie.
Oui, puis quand on parle justement, par exemple, de la fourmi charpentière, quand on va arriver à la maison puis on veut faire nous-mêmes régler notre problématique, les produits de quincaillerie, on ne va jamais les recommander. Fait qu'une fourmi, une fourmi de sable, une fourmi de pavé, c'est une fourmi qui est beaucoup plus facile à exterminer qu'une fourmi charpentière. La fourmi charpentière, la reine, est très, très intelligente. Aussitôt qu'elle sait qu'elle se fait attaquer, en fait, elle va changer ses routes, elle va déplacer le nid. C'est quand ils font les déplacements de nid qu'ils vont aller causer des nouveaux dommages à ta structure, en fait, là.
Mais comment c'est ça, elle, qu'elle est attaquée alors que ça se passe à l'extérieur du nid?
Fait que quand la fourmi charpentière va envoyer des ouvrières ou des exploratrices pour aller découvrir des nouvelles sources de nourriture, si on utilise des produits qui sont répulsifs, souvent les produits de quincaillerie, ils vont fonctionner, mais ils vont fonctionner trop rapidement. Alors les fourmis vont mourir. Fait qu'elle, elle envoie des ouvrières, mais les ouvrières ne reviennent pas. Fait que ça y allume une cloche à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'elle sait qu'elle se fait attaquer. Fait que dans ce moment-là, ils vont tomber en mode protection, ils vont déplacer les œufs, ils vont changer les nids d'endroit, là.
Hey, c'est fascinant comme c'est intelligent, pareil, ben oui, pour des petits insectes, là. Tantôt, vous avez parlé de fourmis odorantes.
Oui.
C'est quoi ça? C'est qu'ils sont vraiment attirés par les odeurs ou...
Non, en fait, c'est une fourmi que...
Je sais pas.
Il l'appelle la fourmi odorante. C'est une fourmi quand on va écraser que ça va vraiment dégager une odeur de nos abondes.
OK. Ça, on a ça dans les maisons, là, ici au Québec.
C'est plutôt rare, mais c'est une espèce qu'on a ici au Québec, oui.
Exact. L'été passé, je t'ai envoyé une photo, Maxime, je ne sais pas si tu t'en souviens, ou c'est peut-être le deux étés, parce que l'été passé, j'ai passé l'été sur mon divan. C'est le deux étés. OK? Je t'ai envoyé une photo. J'avais, je pense, des fourmis charpentières, mais j'ai fait le tour de la maison, c'était pas chez nous. Je les ai suivis, ils s'en allaient à la rue.
Ça se peut-tu? Je me rappelle, oui.
Ouais, ça se peut-tu qu'ils partent du deuxième voisin puis qu'ils s'en viennent chez nous? C'est deux terrains. Même ils passent une rue complète, là.
C'est fort possible. En fait, un réseau de colonies de fourmis charpentières, il y a tout un nid principal. Par la suite, il y a des colonies qui se font là, 500 pieds autour du nid principal. Fait que quand on est rendu 500 pieds, là, on peut quasiment faire une rue au complet. Là. Fait que, hey, effectivement, leur réseau de colonies là, entre eux autres, là, c'est vraiment immense comme réseau. Là.
Ça, est-ce que les fourmis roulent à 24 heures sur 24 ou c'est la nuit arrête?
C'est plutôt nocturne. Fait qu'ils vont travailler encore plus fort la nuit, mais ça va travailler 24 heures sur 24.
Ils sont-tu temps et demi la nuit?
Il y a plein de questions, ouais. Jordan.
Il y en a un qui nous écrit, lui, qui a des craques dans son stationnement en asphalte. Il y a plein de nids de fourmis en dessous, tu sais, des petits monticules de sable dans chaque craque. Lui, sur le long terme, tu sais, il craint peut-être que ça allait à l'intérieur, mais également que ça affaisse un peu son stationnement. Y a-tu des risques?
Oui, en fait, là, surtout quand on a du pavé uni. Ça, c'est une des problématiques du pavé uni. Ils vont faire des petits monticules comme ça à travers dans les fissures du pavé uni. Puis à la longue, ton pavé va se mettre à bouger parce qu'eux, ils sortent tout le sable qu'il y a en dessous qui fait que ça laisse ton sol droit, en fait. Là.
OK. Puis pour rentrer à l'intérieur, vu qu'ils sont proches quand même de la maison, mettons une craque dans le salage, ça peut-tu rentrer là?
Oui, même quand on a un mauvais calfeutrage autour de nos fenêtres, par le dessous des portes patio, par le dessous des portes d'entrée, c'est des endroits propices pour eux de rentrer. Là.
OK.
Je t'entendais, Maxime, faire une vidéo. Tu disais qu'ils peuvent être cachés pendant 6 ans. T'as même pas idée qu'ils sont chez vous. Mais pendant 6 ans, eux autres, ils travaillent. Puis ils doivent te faire un méchant carnage dans les murs, là.
Surtout de la charpentière.
Oui, ouais, bien ça, la fourmi charpentière, ça peut être long avant qu'on s'en aperçoive. Ça va être vraiment là, lorsqu'on va voir des ouvrières se promener, que ça peut nous alerter. Il y en a qui laissent ça aller. Il y a 2-3 fourmis, c'est pas bien grave. Par contre, il y a juste 3 à 5 % du nid, des fourmis dans le nid qui sortent. Fait que si on en voit 4-5 se promener dans notre cuisine, ben ce qu'il y a dans le mur, c'est beaucoup plus grave. Fait qu'effectivement, là, c'est quand même qu'on voit des fourmis charpentières à l'intérieur, surtout à ce temps-ci de l'année. Il n'y a aucune activité à l'extérieur présentement. Fait que si sont dans votre maison, c'est qu'ils sont installés dans la structure de votre maison. Fait que c'est important d'agir rapidement là, pour pas justement laisser ça aller puis attendre des années. Puis que, après un an, c'est sûr que les structures sont encore correctes, mais au bout de certaines années, ça fait quand même beaucoup de dommages. Là.
Puis aussi, pour ajouter un petit quelque chose à ce que Maxime disait, les deux premières années, normalement, ils vont vraiment se concentrer à travailler sur leur nid. Fait que les deux premières années, ils vont quasiment pas sortir, on n'en verra pas. Ils vont vraiment faire leur nid. Puis par la suite, c'est là qu'on va en voir. Quand on commence à avoir des fourmis avec des ailes, là, c'est vraiment un nid qui est mature. Normalement, on parle d'un nid qui a environ 5 à 6 ans, qui vont faire des mâles puis des femelles reproducteurs.
Combien d'espèces là, ça, dans un nid, exemple? Là, c'est-tu des milliers?
Oui, normalement, on parle d'environ là, un nid à une certaine maturité. On parle de 2000 à 2500 individus quand on parle de fourmis de sable. Fourmis charpentières.
C'est pas bien dans la maison, dans les murs.
Dans le mur.
Exact.
Vous avez-tu déjà vécu ça, vous autres? Hein? Vous arrivez sur place, puis le mur est sur le point de tomber comme dans deux semaines?
Oui, en fait, ouais. Même l'année dernière, on avait tombé sur un cas qui était assez fascinant. C'était un entrepreneur général qui nous avait appelé, une de nos bonnes connaissances. Puis il faisait le revêtement extérieur, mais en fin de compte, il n'a pas fait le revêtement extérieur, il a fait les murs au complet. Là. Il ouvrait, plus il ouvrait les murs, plus il se rendait compte que les structures étaient mangées au complet. Là.
Oh my God!
C'était assez
une fois. Mais manger, en fait, il... Il arrache le bois, mais parce qu'il ne mange pas le bois.
Effectivement. Okay. Eux, ils vont vraiment creuser, contrairement aux termites. Les termites qu'on n'a pas au Québec, là, qui sont plus aux États-Unis, les termites, eux, vont se nourrir de bois. Fait que c'est vraiment des insectes qui sont xylophages. Puis, tandis que les fourmis charpentières, ils vont vraiment juste creuser. Puis, c'est pour ça qu'on retrouve des sciures de bois. Eux, ils vont vraiment creuser pour faire leur galerie, mais ils ne se nourrissent pas de bois.
Ça, quand on achète une maison, on fait l'inspection, là, est-ce qu'il y a moyen de savoir s'il y a des fourmis à l'intérieur, s'il y a pas de, tu sais, si c'est pas déclaré, mettons, là, on... Il y a ce moyen de le savoir.
C'est sûr qu'au Québec, c'est un vif caché, les fourmis charpentières. Fait que quand on remplit la déclaration du vendeur, normalement, on doit le mentionner si on en a déjà vu à l'intérieur. Si on ne voit pas d'individu en soi, c'est assez difficile d'avoir des indices en dehors que voir de la sciure le long des murs. Puis sinon, après ça, c'est vraiment les infiltrations d'eau qui vont vraiment attirer les fourmis charpentières. Fait que des fois, on a un patio avec une pente qui est un peu inversée. On a de l'eau qui coule tout le temps vers notre seuil de porte. Notre seuil de porte devient humide. Les fourmis charpentières, c'est leur voie d'entrée. Là.
OK. On nous demande ici, j'ai plusieurs araignées dans ma maison. Ça m'arrive d'ailleurs une fois de temps en temps. Lui, il dit que ça ne dérange pas. Il met dehors l'été, mais est-ce qu'à long terme, ça peut causer un problème, mettons, avec la femelle, les œufs directement dans la maison, puis les petits qui se répandent là-dedans? Ça peut-tu faire quelque chose de négatif sur le long terme ou c'est assez...
En fait, les araignées, côté structural, côté santé, pas vraiment. Ouais. Ça peut juste devenir invasif, en fait. Là. C'est qu'à un moment donné, on a tellement que c'est l'Halloween à l'année à l'intérieur de notre maison. Là. Fait que on veut pas que ça arrive, mais tu sais, côté santé, côté structure du bâtiment, il n'y a pas nécessairement de danger.
Ça mange les
il y a les araignées,
bébés.
Mais effectivement, qu'à un moment donné, les traitements peuvent être efficaces pour au moins enrayer la problématique intérieure. Hey,
très efficace. Moi, vous êtes venu chez nous, il y a 2 ans, j'avais un mur complet. C'était le mur qui était comme pas exposé au soleil. Ah, c'est normal, ça doit être ça, ils sont moins au soleil.
Oui, ou... souvent, ça va être les sources d'eau, tout d'abord des sources d'eau, des sources de soleil. Là, c'est... Il y a différents types d'araignées aussi, ils n'ont pas tous le même comportement, là, mais d'une différence à l'autre. Mais souvent, ça va être proche des cours d'eau là, ou proche des sources d'eau qu'on va en avoir.
Okay, moi, j'en avais un mur complet sur une maison, vous êtes venu.
Oui.
Ça a été terminé, j'en ai même pas eu encore l'été passé, ça fait 2 ans. Là. Fait que c'est vraiment efficace le produit que vous utilisez pour ça?
C'est vraiment efficace, puis toi, en plus, tu as la chance d'être à Lévis. Fait qu'on a la chance de pouvoir utiliser les produits qu'on... Un petit peu plus efficace que l'autre bord du pont.
Expliquez-nous.
Il y a une bonne différence entre les deux.
Ouais. C'est deux mondes complètement différents, en fait. Là. Sauf erreur, là, mettons le Roundup là, pour les mauvaises herbes. Là. On va au Canac, peu importe la quincaillerie, ou les produits qui se vendent, on va à Québec, il n'y en a pas ces tablettes, traverse le pont, les tablettes sont pleines. C'est des réglementations complètement différentes d'une municipalité à l'autre. Là, on vient à Québec a encore restreint les produits utilisés, là, qu'on peut utiliser cet été. Là, fait que on s'adapte, là. C'est des produits plus bio, si on veut, là, mais on est là-dedans présentement. Là.
Depuis quelques années, on dirait qu'on voit plus de coccinelles. Puis il y a beaucoup de gens qui le demandent aussi. Il y a même quelqu'un l'hiver qui a des coccinelles dans sa maison.
Ça rentre partout.
Oui, comment ça rentre dans la maison, premièrement, là, parce que l'hiver, on se demande...
Les coccinelles asiatiques, c'est ceux qui vont infester nos maisons. C'est une espèce qui est arrivée dans la fin des années 70, début des années 80, dans le sud des États-Unis. Ça a été importé, en fait, pour vraiment manger les pucerons dans les champs. Tranquillement, pas vite, au fil des années, avec le réchauffement et tout, ils ont fini par monter. Dans le fin des années 2008-2010, on a commencé à en avoir de plus en plus au Québec. Comment ça fonctionne, c'est quand, vers la fin septembre, début octobre, lorsqu'ils font la dernière coupe des champs, alors ils n'ont plus rien pour se nourrir. Fait qu'ils vont vraiment chercher à aller dans les maisons pour hiberner. Ils vont rentrer par toutes les fissures qu'on peut penser. Fait que vraiment par le dessous des revêtements, par les soffites. Par la suite, ils vont se mettre dans les murs, ils vont se reproduire. C'est comme ça qu'on va en voir toute l'année dans le bâtiment. Ils vont sortir par toutes les craques à l'intérieur du bâtiment, par derrière les calorifères, par les plaintes, par les trous de lumière. Fait que c'est vraiment des endroits qui vont sortir de partout. Puis souvent, on monte dans les entretoits, puis on voit l'entretoit est plein de coccinelles. Là. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup.
Ah, ouais. Hey, il y a une question qui vraiment pique ma curiosité, là, parce que ça s'en vient chez nous, un plancher chauffant. Quelqu'un qui dit « Les problèmes de plancher chauffant, point d'interrogation, des petites fourmis rouges. » Avez-vous déjà vu ça? Ou ça a-tu un lien? Ça a-tu un rapport? Ou...
Bien, les petites fourmis rouges, en fait, c'est, on va souvent beaucoup en voir dans les jardins. Ça va venir... Certains secteurs en ont plus que d'autres. Les planchers chauffants ne vont pas attirer les fourmis rouges, mais vont faire en sorte que quand ils ont de la chaleur, justement, on peut en voir plus sur l'année au complet, en fait. Là.
OK.
Il y a un auditeur qui nous demande, lui, ça, chaque année, tout le temps, je ne sais pas si c'est la même, mais il y a une moufette qui revient se cacher probablement en dessous du cabanon, là, mais à chaque fois, elle revient sur le terrain pendant la nuit. Y a-t-il un moyen pour pas qu'elle revienne faire son tour au printemps prochain? Parce que j'imagine qu'elle va arriver dans quelques semaines, là, si c'est le cas. Là.
Oui, puis là, surtout qu'ils vont tomber en reproduction. Les moufettes, en fait, je ne veux pas trop m'avancer parce que nous, on fait pas beaucoup de captures et recalisations. Puis je pense qu'il y a des nouvelles lois là, au niveau de la moufette avec les ratons laveurs qui ont eu la rage là, dans l'Estrie, dans ce coin-là. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On la capture, on prend une cage, des guimauves, ça marche très très bien pour les moufettes ou une canne de thon. Par la suite, il faut aller la relocaliser à minimum 20 km là, pour pas qu'elle revienne à son nid principal.
Puis okay. Souvent, ils vont être attirés par les vers blancs qu'on a dans la pelouse. Là. Fait que des fois, faire traiter son gazon, ça peut aider là, à ne pas les avoir, mais c'est... Elle risque de revenir quand même, là, quand elle s'installe à quelque part. Là, c'est...
OK.
Surtout si son billet.
C'est quoi ça, les gars, le protocole cheval de Troie?
Alors, protocole cheval de Troie, en fait, là, c'est la manière qu'on extermine nos fourmis charpentières. Fait qu'on a fait on a fait avec le film qui s'est passé, là, quand ils vont rentrer le cheval avec les Grecs. Fait que nous, comment qu'on fonctionne? En fait, c'est notre appât. Fait qu'on va prendre l'appât. Puis les fourmis charpentières, ils ont deux estomacs. Fait qu'il y a un estomac qui va servir à aller nourrir la colonie. Fait que quand ils vont se nourrir avec notre appât, il va prendre un certain temps avant d'agir. Fait qu'ils ramènent notre appât dans le nid et c'est de cette manière-là qu'on va aller exterminer le nid.
OK, ça passe sur quoi? Des heures, des jours?
Fait qu'ils se contaminent entre eux autres.
Fait qu'ils se contaminent tout entre eux autres. Puis les fourmis charpentières aussi vont manger les cadavres des fourmis mortes. Fait que quand il y a des fourmis qui reviennent vers le nid, qui commencent à mourir, ils vont manger le cadavre, puis ils vont s'intoxiquer de cette manière-là, puis toute la chaîne au complet va finir par mourir.
Il y a du cannibalisme.
Oui, au niveau des fourmis.
On nous demande, ça mord-tu des fourmis? Mettons, oui. Peu importe la... Oui, il doit y en avoir une coupe là-dedans. Hein?
Pas peu importe. La fourmi charpentière particulièrement, elle, avec ses petits crochets qu'elle a pour faire des trous dans le bois, elle va pincer.
Me suis, moi, avec.
T'as été piqué?
Oui.
Ah oui, moi aussi.
Oui, j'ai le bout du doigt.
Mais ça pince. Ça va pincer avec leur petite pince pour comme avec la même pince qu'ils servent pour creuser dans le bois.
Mais il n'y a pas de venin. Là. Y a
non,
pas de risque.
Mais il y a certaines fourmis qui vont piquer, là, par exemple.
La coccinelle asiatique aussi qu'on parlait tantôt, là, ça pince surtout quand on...
C'est pas facile la répertorier, elle, comparativement à l'autre, ou c'est facile?
L'asiatique, c'est la plus orange. Ouais, hein? Ses points sont non conformes. En fait, elle, le problème, c'est qu'elle n'a aucun prédateur naturel non plus.
OK, c'est elle la bosse.
Exactement, elle se reproduit à une vitesse phénoménale, puis il n'y a comme rien présentement pour l'éliminer, là, outre que des exterminateurs.
Puis tu parlais des coccinelles qui sont arrivées dans les années 70, ça, c'est des Asiatiques, c'est ça?
Oui, exactement.
Ben, y a-tu des nouvelles bébites qui font leur apparition depuis, mettons, une dizaine d'années au Québec?
Ben, je sais qu'il y a une araignée qui est de plus en plus en train de monter, là, qui est l'araignée, en anglais, c'est la wool spider, là. Je sais pas la traduction exactement en français. C'est une araignée qui est assez grosse. C'est pas une araignée qui est venimeuse, mais on en voit de plus en plus au sud du Québec. Okay. Il y a quelques cas de termites qui ont été localisés aussi au sud, à la frontière Maine-Québec. Mais je pense que oui, avec le temps, il y a de plus en plus d'espèces qui s'en viennent. Puis, tu sais, notre fameuse coccinelle à nous, qui est la coccinelle indigène, va être vouée de plus en plus à disparaître. Fait que c'est une espèce protégée. Parce que justement, la coccinelle asiatique va les tuer et va manger toute leur nourriture. Elle est beaucoup plus vorace là, que notre coccinelle à nous. Là.
OK.
Si on a beaucoup de moustiques sur notre terrasse l'été, y a-t-il quelque chose à faire? Avez-vous des trucs à nous donner? Ou est-ce que vous pouvez intervenir ou il n'y a pas grand-chose à faire pour ça?
Il y a des produits qui sont à Lévis. Il y a des produits qui peuvent faire qu'on peut avoir moins de moustiques, mais tu sais, c'est pas efficace comme une extermination de fourmis ou une extermination de percereils, par exemple. On va diminuer beaucoup la population. Il y a quand même des choses à surveiller quand on a des sources d'eau qui sont stagnantes. Ça va remettre une place qui vont proliférer, qui vont aller pondre leurs œufs. Fait qu'éviter le plus possible d'avoir des sources d'eau stagnantes. Mais on a des traitements pour ça, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. On n'en vend pas beaucoup parce qu'on aime ça que les clients aient une bonne efficacité. Puis quand les gens nous le demandent, s'ils s'attendent à plus voir de fourmis, bien, on aime mieux pas leur vendre le traitement que leur vendre quelque chose qu'ils ne seront pas contents.
Là, c'est peut-être bizarre ma question, mais... Ça peut être intéressant aussi, la réponse. Je vous mets de pression un peu. comment ils nous perçoivent, tu sais, les moustiques, ils nous perçoivent quoi? C'est-tu un gros, c'est une grosse lumière qu'ils voient? C'est parce que c'est la chaleur qu'on dégage? Comment qu'on est... Est-ce tu...
Je sais pas. Pour les moustiques, honnêtement, on n'en fait pas énormément. Okay.
On oublie la question.
Ouais, c'est une bonne question. C'est quoi, comment qu'ils nous voient comme source? Là,
ouais, c'est ça. C'est
si on parle de punaises de lit, ça, on sait qu'ils nous perçoivent. Là, en fait, ils nous sentent. Nous, on dégage un CO2 qui les attire pour se nourrir.
C'est l'odeur ou c'est la chaleur dégagée.
Je pense que Mark Hamilton disait ça aussi. Quand on a parlé de CO2.
C'est vraiment le CO2 qu'on dégage. En état immobile, on dégage un CO2. Ils sont attirés vers ce CO2-là. Puis la seule source de nourriture qu'ils mangent, c'est que du sang. Fait qu'ils vont que se nourrir de sang d'humain. Fait qu'à ce moment-là, ben, on les attire. Là. Fait que, probablement que les moustiques, ils se nourrissent aussi un peu de notre sang, parce que quand on en écrase, des fois, on a une petite trace de sang.
Ben oui.
Mais je peux pas te dire exactement comment ils nous perçoivent.
Les punaises de lit, c'est encore problématique. Ça a été dans l'actualité à un moment donné, puis on dirait qu'on en entend moins parler. Là.
Je dirais qu'on en fait encore beaucoup. C'est présentement le plus gros fléau à Québec, je dirais que c'est les blattes germaniques précisément. C'est...
Coquerel, en autre mot.
Okay. Mais...
C'est ce qu'on fait le plus présentement. Je dirais que les punaises de lit, ça va beaucoup par cycle. C'est... Comme là, au mois d'août, ça va vraiment être l'apogée. Fait que tout le monde fait les déménagements. Il y a des gens qui ne l'ont pas dit au propriétaire ou quoi que ce soit. Ça se cache dans les murs, là, ça va se mettre à sortir. Fait qu'au mois d'août, c'est vraiment le mois qu'on en fait le plus dans l'année. Mais on en fait relativement 12 mois par année.
Ça doit être un calvaire. Là. Tu t'aménages, puis après 2-3 semaines, ça se met... Tu t'aperçois qu'il
s'est...
C'est ça, t'en as fait un dos.
J'ai une petite anecdote là, pour les punaises de lit. On avait fait un cas, je me rappelle pas si c'est pas il y a 2 ans. C'était quelqu'un qui était atteint de maladie mentale, puis c'était de la schizophrénie. Puis cette personne-là, quand on est rentré dans l'appartement, il venait d'être placé. Puis il y avait des milliers et des milliers. On n'avait jamais vu un cas. C'était son matelas était rempli de punaises de lit. Puis les voisins ne s'en étaient jamais rendus compte parce que c'était une personne qui ne sortait pas beaucoup de la maison. Fait que lui, c'était vraiment la nourriture en soi de toute cette colonie de punaises-là. Aussitôt qu'il a quitté pour l'hôpital, ben ça s'est mis à se transférer vers chez les voisins. Puis ça a été un cas qui était assez dur à régler, qui a pris quand même beaucoup de temps, là, étant donné que c'était une infestation qui était vraiment majeure. Là.
Puis pouvez-vous savoir ça provenait de où? Vous faites-vous l'enquête des fois pour tenter de comprendre?
En fait, ça va tout le temps venir de... Tu sais, ça vient pas de l'extérieur. Hein? Fait que c'est tout le temps du transport. Fait que dans les déménagements, par exemple, à l'hôpital, dans les autobus, quand quelqu'un qui en a à la maison, on en met dans l'autobus, on s'assied dans l'autobus, ça rentre dans notre sacoche, dans notre sac à main.
Mais ça peut être aussi niaiseux que ça.
Ouais. Ou les hôtels aussi, beaucoup, là, des gens qui reviennent du Mexique, qui reviennent de peu importe où, quand ils rentrent à la maison, leur valise, ils se rendent compte de rien, il y en a dans leur valise. Et la problématique.
Ça se reproduit, ça, oui.
À une vitesse. Ça doit être capoté.
C'est vrai que c'est bon, mettons, l'hiver, de laisser notre valise dehors, excitant, là, avant de faire notre valise en revenant de voyage?
Un 72 heures, là, dans les environs de moins 20, il n'y a pas un insecte qui va survivre à ça.
OK, fait que ce serait un bon truc, ça.
C'est excellent, mais il y en a qui vont dire, oh, va vider ma valise, va laisser ma valise dehors. Non, c'est de la valise avec le linge.
Oui, oui.
Puis à l'hôtel, exact. Puis à l'hôtel, c'est d'éviter de laisser nos valises à terre. Idéalement, là, mettre sur les tables de chevet ou sur les comptoirs qu'il y a là, dans les hôtels. Pas les mettre à terre ou sur les lits, là, ça vous allez éviter d'en ramener quand même.
OK, ils vont vous autres, pendant qu'ils sont à terre dans la semaine, ils vont se faire une trail, ils vont y aller.
Puis là, à l'hôtel, quand on arrive, là, c'est vrai qu'il faut regarder là, dans la noirceur pour comment est-ce qu'on peut détecter qu'il y en a ou pas?
En fait, ça serait vraiment de lever le couvre-matelas. De plus en plus, les hôtels vont utiliser des couvre-matelas anti-punaises là, qu'on appelle... c'est vraiment d'observer la lèvre du matelas. Fait qu'on lève la lèvre du matelas tout le tour, puis on observe voir s'il n'y a pas des petits points noirs. Fait que comme si on prenait un petit charpie, on faisait des petits points noirs. En fait, c'est des traces de sang séché. Fait que c'est des excréments de punaises. C'est souvent ces endroits-là, là, dans les petits replis de matelas qu'on va les voir. Dans les tables de chevet aussi, dans les coins, derrière les tiroirs, dans les pentures, ça va vraiment être les endroits qui vont aimer se cacher.
Donc, le sang qui dit « je vous écoute et ça pique ».
Mais aussi, je me gratte depuis
tantôt. Bon, qui sont ces deux experts-là? C'est Maxime et Nicolas de Éradique Extermination. Comment on peut prendre contact avec vous, les gars?
En fait, assez simple. On est sur pas mal toutes les plateformes, là, Facebook, Instagram, TikTok. Sinon, là, notre courriel là, info@eradique.ca. Numéro de téléphone 418-781-9798. Puis, tu sais, on a changé de nom, on a toujours la même administration. On est toujours recommandé CA Québec. On est membre de l'OQGP, on est vraiment à toutes les certifications possibles. Puis on fait beaucoup plus là, de commercial qu'on en faisait avant, beaucoup de multilogements, restaurants, usines alimentaires, entrepôts. Là. Peu importe vos besoins, là, on est en mesure
de regarder ça. Jusqu'où votre territoire s'en
on aime dire qu'environ 100 km autour des ponts.
OK. Même si maintenant, vous faites aussi
de la business. On fait du Montréal, exactement, ben oui, là, c'est au ça. Besoin.
On vous réinvite, les gars, dans un mois, parce que, regarde,
c'est vraiment intéressant.
Vraiment, on a eu 75 textos, on a répondu à 10 % à peu près.
Excellent, on est bien content d'avoir renouvelé notre partenariat avec vous.
Oui, merci, les gars. Toujours un plaisir de vous recevoir.
Excellent, merci, à bientôt.
Salut. Retour de Radio X.
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.